Bonjour à vous toutes et tous, merci d'être avec nous sur le 98.5 FM Radio Galaxy, votre radio locale, pour savoir tout ce qui se passe près de chez vous et découvrir les personnes et les associations qui font vivre notre territoire. Maintenant, nous allons parler de la reprise des conférences extraordinaires mises en place par la petite université populaire en Volvestre, ou pour faire court, Pupenvol. Le principe de Pupenvol est simple. Il s'agit de mettre en place des conférences avec des intervenants de renom, souvent des universitaires, qui partagent leur savoir gratuitement à tous ceux qui veulent venir les écouter. L'entrée aux conférences est libre, gratuite et même l'adhésion à l'association est facultative, mais appréciée. Les sujets abordés sont toujours variés, de très haute qualité et toujours riches d'enseignements. Aussi, pour parler de la prochaine conférence qui va se dérouler le 30 juin prochain à la salle des fêtes de Montesquieu-Volvestre à 20h, je suis en relation téléphonique avec Monsieur Jean-Claude Jacobson, professeur émérite à l'Institut de mathématiques de Toulouse et responsable du Centre national de jubilation scientifique argentin. Monsieur Jacobson, bonjour à vous.
Bonjour et merci de m'accueillir à votre radio.
C'est toujours un plaisir. Vous nous dites que les mathématiques, une fois qu'on les a comprises, c'est comme la bicyclette ou la natation, ça ne s'oublie pas, c'est pour la vie. C'est votre position ?
Je pense que c'est la mienne, mais chez tous mes collègues et les mathématiciens que j'ai pu rencontrer sur Terre, ont tous cette pratique depuis longtemps, je les ai toujours vus pédaler.
Pour certains, les mathématiques, c'est un langage avec sa grammaire, ses règles d'orthographe. Est-ce pour cela qu'ils disent que les mathématiques peuvent être une forme de poésie ?
Oui, c'est un débat très compliqué. Peut-être qu'à l'origine, avant qu'il y ait un langage, je pense que les hommes se sont confrontés à des problèmes de la vie quotidienne. Partager un champ, faire leur compte, l'économie, et a émergé des problèmes. Ils ont modélisé ces problèmes. Alors modéliser, ça veut dire mettre en équation et trouver l'explication. Par exemple, les premiers hommes étaient immergés dans la nature, hein, les étoiles, la lune, etc. Quel était leur mouvement, la forme de la Terre, etc. Donc, tout ça pose question. Et je pense que une façon de répondre à toutes ces questions a été de mettre ces questions en équation.
En équation, c'est-à-dire poser la bonne question pour trouver la bonne réponse.
Et puis, il faut la trouver. Et donc, une fois qu'on a posé la question, on sait que c'est la bonne question, mais la réponse peut prendre énormément de temps.
Vous dites également qu'on peut prendre plaisir à faire des mathématiques. C'est-à-dire ?
Oui, et oui, comme toute activité humaine, comme écrire, comme la poésie. Donc, par exemple, quand on entend un écrivain, quand on interviewe un écrivain, on lui demande s'il prend plaisir à l'écriture, il va dire oui, mais des fois c'est dur, il rame, quoi, il pédale, et des fois il y a des côtes. Et les côtes, on aime bien arriver au sommet du col et redescendre de l'autre côté, quoi. Voilà, le plaisir et cet équilibre entre la montée et la descente, peut-être.
La France est un grand pays de mathématiciens. On est un des pays qui a obtenu le plus de médailles Fields. Comment expliquez-vous que les mathématiques ont si peu d'aura dans nos médias, dans nos préoccupations ?
Alors ça, c'est une question de culture. Là, je pense que on est plus imprégné d'une culture littéraire que d'une culture scientifique.
Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui trouvent que les maths, c'est difficile.
Ben oui, mais de toute façon, c'est très dur. Même pour quelqu'un comme moi, c'est difficile. Parce que quand on se pose un problème, on sait le moment où on l'a posé, mais on ne sait pas le moment où on aura résolu le problème. Moi, j'ai travaillé dans ma jeunesse sur des problèmes que je n'ai jamais résolus et qui sont irrésolus actuellement. Par exemple, il y a un problème qui s'appelle le problème de Syracuse. J'explique faut quand même dans cette interview de parler un petit peu de mathématiques pour donner un exemple. Alors, vous prenez un nombre. S'il est pair, on divise par 2, et s'il est impair, on multiplie par 3, on ajoute 1. Exemple, 2. 2 est pair. Je divise par 2. J'arrive à 1. 1 est impair. 3 fois 1, 3, plus 1, 4. 4 est pair. Je divise par 2, ça fait 2. Je divise par 2, j'arrive à 1. Ce phénomène, prendre un nombre, on arrive toujours à 1, il y a un truc. Il y a une évidence. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre. Et bien ce problème, j'ai travaillé pendant 3 ans, et je ne suis pas arrivé à dire pourquoi on arrivait toujours à 1, par cette règle. Et jusqu'à maintenant, personne n'est arrivé à dire pourquoi on arrivait à 1. Ça, on appelle une conjecture, et on n'en a pas la preuve. Parce qu'en mathématiques, tout ce qu'on affirme doit être prouvé.
Excusez-moi, je vais poser une question très naïve. En quoi c'est important?
En quoi c'est important? Eh bien, parce que, en soi, ce problème est aussi important ou pas important que de savoir pourquoi la Terre tourne autour du Soleil. En quoi de savoir que pourquoi la Terre tourne autour du Soleil, pourquoi ça c'est important? Mais c'est de trouver des lois et de comprendre. Donc on a quelque chose, nous, dans le cerveau, qui fait qu'on a envie de comprendre. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse serait peut-être de dire aussi que quand on va trouver le pourquoi que ça tombe toujours à 1, pour trouver ça, de faire la preuve de pourquoi ça arrive à 1, on va mettre en œuvre tout un tas de stratagèmes, et il se trouve que ces stratagèmes vont pouvoir servir par ailleurs pour démontrer des résultats qui peuvent être très étrangers au problème que j'ai expliqué il y a une minute.
Si je comprends bien, c'est le chemin emprunté qui est important, car il peut ouvrir la voie sur d'autres façons de penser.
Oui, ça peut être repliqué ailleurs. Ah, c'est un truc... par exemple, quand Newton a inventé ce qu'on appelle le calcul différentiel pour résoudre des problèmes particuliers, il s'est trouvé que ces outils du calcul différentiel sont utilisés maintenant pour calculer numériquement la solution de tout un tas de problèmes, de ce qu'on appelle les algorithmes actuellement, ou l'intelligence artificielle.
Dans les mathématiques, pour moi, il y a deux branches. Les mathématiques appliquées, utilisables dans l'industrie, par exemple, et les mathématiques fondamentales pour la recherche et la résolution de problèmes.
Oui, alors ça, personnellement, dans ma vie de mathématicien, je n'ai jamais vu la différence entre ces mathématiques dites appliquées et les mathématiques dites fondamentales. C'est la même chose, en fait. Moi, je suis étiqueté comme mathématicien appliqué. Mais j'avoue que tout ce que je fais est quand même très fondamental. Et les applications sont quand même assez éloignées. Hein. Donc, au lieu de parler de mathématiques fondamentales appliquées, on pourrait dire que telle personne travaille, par exemple, en géométrie, telle autre personne travaille en algèbre, telle autre personne travaille en analyse numérique, telle autre personne va travailler dans les équations provenant de la physique. Vous voyez, il y a tous ces différents domaines qui peuvent être interconnectés les uns avec les autres, mais dans chacun des domaines, il y aura peut-être une vision plus théorique et une autre qui aurait tendance peut-être à être un peu plus appliquée, mais la frontière est très floue entre les divers points de vue, voilà ça que, c'est ça que je veux dire. Cette distinction entre mathématiques fondamentales et mathématiques appliquées, je pense qu'elle provient après la Seconde Guerre mondiale, en France. Et en France, certains mathématiciens qui ont eu des responsabilités, disons, politiques, au niveau de la façon dont l'argent était distribué à différents laboratoires, ont peut-être eu intérêt à différencier ce point de vue mathématique fondamentale, mathématique appliquée.
Revenons, si vous le voulez bien, à votre conférence « Maths, les maths » du verbe « mater », donc « dominer les maths », qui va se dérouler le mercredi 30 juin à 20h à Montesquieu-Volvêtre, à la salle des fêtes. De quoi allez-vous nous parler ?
J'aurais pu intituler la conférence « Tapas Mathematicas ». Et donc c'est un peu ça, je vais aborder des sujets divers à partir de choses que les gens connaissent, par exemple la multiplication par deux. Voilà, donc je vais aborder ce thème-là et je vais le relier à quelque chose de géométrique, à des figures. Ouais, j'aime bien faire ce lien entre les nombres et la géométrie. Par quelle figure pourrait-on représenter la multiplication par deux? Voilà, ça. Après j'aborderai la façon d'obtenir ce qui a été utilisé dans l'art, c'est ce qu'on appelle les fractales. Donc j'aborderai des thèmes comme ça, et puis par exemple aussi un autre thème qui peut être abordé, c'est la stabilité du système solaire et en quoi cette question a fait avancer les mathématiques, quels sont les problèmes qui se posent, pourquoi ce problème est plus ou moins irrésolu actuellement. J'aborderai aussi des problèmes. On s'est aperçu que tout nombre pair est la somme de deux nombres premiers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier ? Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et que par 1. Par exemple, 2 est premier. Hein ? Les seuls diviseurs de 2, c'est 2 et 1. 3 est premier, seul diviseur de 3, c'est 3 et 1. 4 n'est pas premier, parce que 4 est divisible par 2. Voilà. Donc, par exemple, si vous prenez 10, vous pouvez faire la somme, 10 est la somme de 7 et de 3. 7 est premier et 3 est premier. Eh bien, tout nombre pair, on s'est aperçu que c'était comme ça. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais pu démontrer ce fait. Cet énoncé est très simple.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait. Les énoncés peuvent être simples, ce sont les réponses qui sont compliquées à trouver.
La réponse, c'est quand même quelque chose, ce qu'on appelle une conjecture en mathématiques, ça, quand même, ça dure depuis 400 ans. Hein. Par exemple, il y a une conjecture dans la région, là, il y a eu un mathématicien qui s'appelait Fermat. Donc là, il y a une conjecture qui était la conjecture de Fermat. Donc Fermat était de Beaumont-de-Lomagne. Et il était magistrat à Toulouse. Fermat, c'est 1630, par là, 1640. Il a écrit une lettre à un ami, un mathématicien comme lui, je me souviens plus son nom, et il a dit que, donc, pour introduire ça, plutôt, on va commencer par, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté soutient les deux côtés de l'angle droit, donc l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés. Par exemple, si vous avez un triangle rectangle dans lequel il y a un côté qui fait 3 et l'autre qui fait 4, et bien l'hypoténuse au carré, ça fait 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 9 plus 16 est égal à 25, qui est égal à 5 au carré. Donc 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Et maintenant, si on essaye de résoudre l'équation en x, y et z, z x au carré plus z au carré égale z au carré, il y a beaucoup de solutions en x, y et z. Et bien Fermat, il a dit que dès que n, par exemple x3 plus y au cube égale z au cube, il n'y a aucune solution en x, y et z entiers. Il n'y a pas de solution. Donc x puissance 4 plus y puissance 4 égale z puissance 4, il n'y a pas de solution. Et de façon générale, il y a l'équation de Fermat, ça se dit xn plus yn égale zn. Il n'y a pas de solution en x, y, z entier dès que n est plus grand ou égal à 3. Donc Fermat, c'est 1630, 1640, et il y a un Anglais qui s'appelle Andrew Wiles qui a montré que effectivement il n'y avait pas de solution, mais dans les années à peu près 1995. Donc il y a une longue histoire là-dessus, beaucoup de mathématiciens ont cherché, c'est ce mathématicien anglais qui a montré ce fait. Donc il a fallu plus de 300 ans, 400 ans pour montrer ça. Il y a un autre mathématicien qui a fini ses jours dans la région, qui est un mathématicien dont je ne connais pas bien les mathématiques, seulement c'est Grothendieck, Alexandre Grothendieck, qui était un médaillé Fields. Moi-même, me suis intéressé à un de ses articles seulement, de Grothendieck. J'ai beaucoup travaillé, je continue. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec un. C'est écrit en français d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui écrivait des mathématiques de façon admirable. Et s'appelle sur l'équation de Fred Holm. C'est une équation qui vient de la physique. Et d'autre part, dans les années 80, il a écrit un livre et il raconte un peu tout son itinéraire personnel et il le mêle à son itinéraire mathématique et c'est excessivement bien écrit. C'est un écrivain admirable, hein, Grothendieck. Il a des phrases admirables sur la façon dont, sur la création, comment la création vient en mathématiques. Il dit qu'il faut avoir une âme de petit enfant.
Jean-Claude Jacobson, mathématicien, merci de ce partage très érudit. Je rappelle qu'on pourra déguster ces tapas mathématiques le mercredi 30 juin à 20h dans la salle des fêtes de Montesquieu-Volvestre, ouais, dans le cadre de la petite université populaire en Volvestre, de laquelle vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site www.pupenvol.fr. Jean-Claude Jacobson, encore merci et rendez-vous est donné le 30 juin à Montesquieu-Volvestre. Au revoir.
C'est moi qui vous remercie. Adichat.